Orinoco. Billets d'humeur ou chroniques, anecdotes ou histoires, culturelles et musicales. Inclassable. Aux manettes et au micro, Gilles Bègue. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité à ce programme qui, comme le titre l'indique, fête ses 20 ans ce mois-ci, comme je l'ai indiqué en septembre lors du premier épisode de sa 20e saison en valeur absolue. Et oui, Orinoco attaquait sa 20e année, 20 années consécutives. Et sa longévité et ses métamorphoses se devaient d'être expliquées. Car peu nombreux malgré tout sont les programmes radio à fêter leurs 20 ans. Et vous comprendrez aisément que 20 années de programme, soit des centaines d'heures d'antenne, ne pourront pas être intégralement récapitulées lors de ce programme. Alors, pour faire pour le mieux et d'une façon non exhaustive, je reprendrai très partiellement les moments qui me paraissent les plus marquants, en commençant par le début. Et oui, dès janvier 2005, sur la bande FM de certaines radios françaises, on pouvait entendre ça. Cette musique que nous entendons, c'est Gustavo Colina jouant du cuatro, une petite guitare à quatre cordes, instrument symbole de la musique vénézuélienne et particulièrement présent et apprécié dans un genre musical qu'on appelle le roropo. Générique musical souvent interprété avec une harpe, un cuatro et des maracas. Une musique, mais aussi une danse très reconnaissable par ses mesures en 6 por 8, en 6-8, c'est-à-dire avec 6 croches par mesure. Une musique et une danse festive et sautillante due à ce rythme endiablé. Et pourquoi le programme Orinoco débuta en janvier 2005 avec cette musique? Eh bien, je vais vous l'expliquer rapidement, puis je développerai ultérieurement. Alors d'abord, pourquoi ce nom, Orinoco? Eh bien, c'est le nom du grand fleuve qui traverse le Venezuela d'ouest en est, connu en France sous le nom d'Orénoque. Alors même, si moins connu que l'Amazone ou le fleuve Congo, il arrive, derrière ces deux derniers, comme ayant le plus gros débit des fleuves du monde. Voilà en ce qui concerne le nom de ce programme. Je trouvais toujours assez réducteur qu'après chaque retour du Venezuela, pays où j'ai passé 25 hivers, on me dise à chaque fois « Ah, oh, tu dois te régaler là-bas, toi qui aimes tant la musique sud-américaine. » Toi qui aimes tant la musique sud-américaine. Et un jour, je me suis imaginé un gringo arrivant d'Alabama ou du Mississippi me dire « Ah, oh, c'est super chouette la musique européenne. » À qui j'aurais répondu « Qu'est-ce que t'entends par la musique européenne ? Les musiques albanaises aux influences balkaniques ? La musique andalouse aux sonorités arabo-andalouses, la musique classique autrichienne de Mozart, Haydn ou Schubert, la pop britannique des Beatles, les chansons à texte de Léo Ferré ou la bourrée auvergnate. Ouais, la musique européenne. Je lui aurais certainement dit, écoute, va prendre une bière et oublie-moi. Eh bien, si vous trouvez ridicule ce petit exemple d'un Américain mettant dans le même sac toutes les musiques européennes, les Français, entre autres, sont dans le même cas lorsqu'ils parlent de musique sud-américaine. L'Amérique du Sud est un continent de 18 millions de kilomètres carrés, presque le double de l'Europe. Et on voudrait qu'il y ait une musique sud-américaine, ou même un genre de musique sud-américaine. Et je supportais de moins en moins et trouvais très réducteur la tendance à nous faire croire que la musique sud-américaine, c'était toujours à peu près la même chose. Voilà pourquoi je me sentis poussé à proposer un programme musical consacré au Venezuela pour montrer aux auditeurs français la richesse et la diversité de la musique, non pas sud-américaine, mais uniquement vénézuélienne. Et après avoir débuté en janvier 2005 avec ce générique musical qu'on appelle le Roropo, j'ai enchaîné le mois suivant avec ça. Et pourquoi des percussions ? Pour aller à la découverte des musiques vénézuéliennes. Pour une raison très simple. C'est qu'en parallèle de l'introduction des instruments à cordes, dont le cuatro que l'on vient d'écouter, introduction due à l'arrivée des Espagnols sur ce continent, la deuxième, voire première expression musicale vénézuélienne, populaire, est le tambour. Comment et pourquoi ? Pourquoi le tambour afro-vénézuélien, ce phénomène exceptionnel, touche-t-il toute la côte centrale du Venezuela ? Là encore, je vais essayer de vous expliquer rapidement. Les colons espagnols pensaient faire de l'argent avec l'or de l'Orénoque, mais ils furent déçus par le manque d'or. Alors, ils comprirent rapidement l'intérêt que revêtait le cacao et le commerce fructueux qu'ils pourraient en faire avec l'Europe. Alors de fait, les Espagnols s'installèrent relativement tôt sur la côte centrale du Venezuela, propice à cette culture. La société coloniale s'organisa donc quasi dès l'origine autour de la culture du cacao et mit en esclavage la population locale, les populations indiennes, qui s'épuisèrent rapidement et devinrent insuffisantes. Alors, ils firent appel aux esclaves venus d'Afrique. Paradoxalement, cette région fut toujours, et est aujourd'hui encore, d'un accès très difficile par la terre. Ceux qui ont eu la chance de se rendre à Sepe ou Chuao, en traversant le parc Henri Pitié, ont pu s'en apercevoir. La côte centrale est en effet séparée de l'intérieur des terres par une chaîne de montagnes très escarpée, qui s'enfonce parfois abruptement dans la mer. Alors ces particularités font de cette côte une enclave géographique spécifique, possédant des caractéristiques culturelles propres. En effet, les difficultés d'accès et les effroyables conditions d'existence des esclaves favorisèrent dans cette partie du pays le marronnage. Le marronnage qui définit les esclaves insoumis qui s'enfuirent dans la nature, solitaires ou en groupe, créant ainsi de petites sociétés dans lesquelles ils reproduisirent les coutumes africaines. À cause de l'isolement relatif de ces groupes sociaux, les traces de l'Afrique sont très très présentes. Et même si la musique a perdu le sens original qu'elle avait en Afrique, la tradition musicale s'est conservée avec une remarquable vitalité et une étonnante fidélité. Les instruments toujours présents, de Puerto Cabellos à Barlovento en passant par Choroni, sont principalement l'incontournable culo e puya, appelé aussi redondos, le tambour mina et la corbata, entre autres. Et j'ai ainsi, durant 8 années, parcouru tous les genres musicaux présents au Venezuela. Le pararillo, le calypso del Callao, la gaita de Maracaibo, à vrai dire de l'état de Zulia, et puis tant d'autres. Puis je me suis ensuite tourné vers les musiciens vénézuéliens, tout particulièrement vers les compositeurs. Et pour ce numéro spécial d'Orinoco, je ne retiendrai que 2 genres musicaux parmi tant d'autres qui pourraient surprendre certains en pensant au Venezuela. Le jazz et la musique classique ou académique. Alors commençons par le jazz. Jazzman qui n'aurait pas à rougir face à Thelonious Monk, Art Tatum, Oscar Peterson ou Bill Evans. Et oui, on pourrait quasiment parler d'une école de jazz vénézuélienne, tant les pianistes de jazz sont brillants. Et en parlant de jazz brillant, j'aimerais rendre un bref hommage à Jerry Well, à qui je consacrais une émission en 2007 pour la sortie de son dernier album, Empatia, et qui, nous quitta en novembre dernier. On l'entend là dans la première piste de cet album, Canción para mi viejo, accompagné de Pablo Gil au sax et de Nene Quintero au percu. De jazz, j'aurais pu vous citer entre autres le trompettiste Chippy Chacón, le pianiste César Orozco, le vibraphoniste Alfredo Naranjo, les contrebassistes Roberto Koch ou Gonzalo Tepa, le batteur Andrés Briceño ou bien sa fille, la trompettiste Linda Briceño, comme des dizaines d'autres. En passant, toujours trop vite, je vais rapidement vous parler de l'autre genre musical très présent au Venezuela, la musique classique ou académique. Avec Sous ma voix, que l'on entend, Fugue romantique, une composition de Juan Bautista Plaza, un compositeur vénézuélien né en 1898 et mort en 1965. Compositeur auquel j'ai consacré aussi un programme que vous pouvez d'ailleurs toujours réécouter sur le site Orinoco-podcast. Initiés et sans trop me tromper, rien ne différencie la qualité de ses œuvres de celles de Debussy, de Saint-Saëns, de Massenet ou de Bizet. Mais le grand essor de la musique classique et symphonique, on le doit, entre autres, al señor José Antonio Abreu, le fondateur d'El Sistema, dont de nombreux pays se sont inspirés. Grâce au Sistema, le Venezuela compte pour 22 millions d'habitants, 500 000 jeunes pratiquant la musique classique au sein de 126 orchestres, ainsi que 36 orchestres symphoniques professionnels, 15 000 professeurs de musique et 136 centres de formation et conservatoires. Et parmi les fruits de son travail, si l'on devait n'en citer qu'un, ce serait certainement Gustavo Dudamel, chef d'orchestre mondialement reconnu, qui prit entre autres en charge la direction musicale de l'Opéra de Paris de 2021 à 2023. Et je ne peux pas m'empêcher de vous faire entendre quelques mesures du jeune chef d'orchestre à l'époque, conduisant l'Orchestra Juvenil Simon Bolivar de Venezuela dans l'interprétation d'Alma Llanera, une composition du Vénézuélien Pedro Elias Gutiérrez. Alma Llanera. Thank you. Puis j'aurais pu vous parler d'un Douglas Marcano, plus récemment apparu à la direction d'orchestre, fruit, elle aussi, del Sistema. C'est le cas de le dire, une petite vendeuse de fruits. Elle fut nommée chef de l'orchestre symphonique des jeunes du conservatoire Simon Bolivar en 2018 et distinguée par le prix spécial de l'orchestre, le Paris Mozart Orchestra, au concours La Maestra de Paris en septembre 2020. Peut-être certains se souviennent sans doute de sa prestation remarquable. C'était télévisé d'ailleurs, allègre, dynamique, qui lui valut certainement le prix spécial de l'orchestre de Paris. Puis, étant à l'écoute d'une piste de l'album nommé Fiesta, conduit par le jeune chef d'orchestre de l'époque Gustavo Dudamel, en parlant de Fiesta, je ne pouvais pas refermer la page Venezuela sans vous parler de la musique omniprésente au Venezuela, la salsa. Et si, à juste titre, on dit qu'elle est new-yorkaise, n'oublions pas que parmi les plus grands salseros, ou rumberos comme on les appelle au Venezuela, il y a de nombreux Vénézuéliens, avec peut-être le plus connu d'entre eux, Oscar de León.
Para el mundo.
Après avoir mis près de 8 années radiophoniques à descendre le fleuve Orénoque pour traverser musicalement tout le Venezuela, je suis parti à la découverte d'autres pays de ce grand continent, en faisant une première halte à Buenos Aires, dans les traces du plus connu bandoneoniste et compositeur argentin Astor Piazzolla. Thank you. De l'Argentine et son tango, j'ai commencé un périple autour des musiques lusophones, en commençant par le Brésil. Avec Cabo Verde, le Cap Vert, et sa princesse Cesária Évora. Puis le Portugal, pour refermer ce cycle consacré aux musiques lusophones. Si près de chez nous, mais assez méconnu malgré tout. Et j'avais constaté, à l'époque, en préparant l'émission, que si l'on demandait à des gens de citer des grands peintres espagnols, les personnes pouvaient me citer Picasso, Dali, des grands peintres italiens, on me citait Michel-Ange, Léonard de Vinci. Et portugais ? Là, c'était plus dur. Un peu normal, hein. L'art du Portugal est totalement méconnu en France, or qu'ils soient simples amateurs ou même historiens de l'art. Si on prend la Renaissance, la peinture au Portugal au temps des grandes découvertes. Dans l'esprit des Français, la Renaissance est d'abord italienne. Le Louvre, qui expose déjà très peu de peintres espagnols, possède quelques œuvres portugaises, mais les conserve dans les réserves. Les historiens de l'art, dans leurs ouvrages comme dans leurs enseignements, au mieux signalent que le Portugal a existé. Alors vous allez me dire, oui, mais moi la peinture ça ne m'intéresse pas, j'y connais pas grand chose. Ok, alors citez-moi des grands musiciens, des grands compositeurs portugais. Oh, la grande musique ça ne m'intéresse pas non plus. Ok, alors des grands réalisateurs de cinéma. Alors pour l'Espagne, vous allez me parler d'Almodovar, de Luis Buñuel. Pour l'Italie, peut-être vous allez me citer Fellini, Visconti, Pasolini. Et pour le Portugal, toujours la même interrogation. Alors, je vais arrêter mon petit jeu des devinettes plutôt embarrassante. Mais il faut reconnaître que l'on parle, quand on veut parler de la langue française, allemande, italienne, anglaise, on parle de la langue de Shakespeare, de la langue de Goethe, de Dante ou de Molière. Eh bien, j'espère qu'après ce cycle sur les musiques lusophones, on s'intéresse davantage à la langue de Camoès. N'oublions pas que près de 240 millions de personnes parlent le portugais à travers le monde. Angola, Brésil, Cap-Vert, Guinée équatoriale, Macao, Mozambique, Portugal, bien sûr, São Tomé e Príncipe et Timor oriental. Orinoco débarqua en France avec le fleuron de la chanson française, connue, Barbara.
Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même, à Göttingen, à Göttingen. Pas de quai, pas de rengaine, qui se lamente et qui se traîne, mais l'amour y fleurit quand même. À Göttingen, à Göttingen, ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter, Helga et Hans, à Göttingen. Et que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance, il était une fois, commence à Göttingen. Bien sûr, nous, nous avons la Seine, et puis notre bois de Seine. Mais Dieu, que les roses sont belles à Göttingen, à Göttingen. Nous, nous avons nos matins blêmes et l'ombre grise de Verlaine. C'est la mélancolie même à Göttingen, quand ils ne savent rien nous dire, ils restent là nous sourire, mais nous les comprenons quand même, les enfants blonds de Göttingen. Et tant pis pour ceux qui s'étonnent et que les autres me pardonnent, mais les enfants ce sont les mêmes à Paris ou à Göttingen. Oh, que jamais ne revienne le temps du sang et de la haine, car il y a des gens que j'aime à Göttingen, à Göttingen. Et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen.
Moins connu, Pierre Barraud.
Être heureux, c'est plus ou moins ce qu'on cherche. J'aime rire, chanter, et je n'empêche pas les gens qui sont bien d'être joyeux. Pourtant, s'il est une samba sans tristesse, c'est un vin qui ne donne pas l'ivresse. Un vin qui ne donne pas l'ivresse. Non, ce n'est pas la samba que je veux. Faire une samba sans tristesse, c'est aimer une femme qui ne serait que belle. Ce sont les propres paroles de Vinicius de Moraes, poète et diplomate, auteur de cette chanson, et comme il le dit lui-même, le blanc le plus noir du Brésil. Moi qui suis peut-être le français le plus brésilien de France, j'aimerais vous parler de mon amour de la samba, comme un amoureux qui n'osant pas parler à celle qu'il aime, en parlerait à tous ceux qu'il rencontre. J'en connais que la chanson incommode, d'autres pour qui ce n'est rien qu'une mode, d'autres qui en profitent sans l'aimer. Moi je l'aime et j'ai parcouru le monde en cherchant ses racines vagabondes. Aujourd'hui pour trouver les plus profondes, c'est la samba chanson qu'il faut chanter. Juan Gilberto, Carlos Lira, Dorival Caymmi, Antonio Carlos Jobim, Vinicius de Moraes, Baden Powell, qui a fait la musique de cette chanson et de tant d'autres. Vous avez mon salut. Ce soir, je voudrais boire jusqu'à l'ivresse, pour mieux délirer sur tous ceux que grâce à vous j'ai découvert et qui ont fait de la samba ce qu'elle est. Saraba, Peshinguin, Noël Rosa, Dolores Duran, Silvio Montero, et tant d'autres. Et tous ceux qui viennent, Edu Lobo, et mes amis qui sont avec moi ce soir. Baden, bien sûr, Ico, Osvaldo, Biggi, Oscar, Nicolino, Milton, Saraba. Tous ceux-là qui font qu'il est un mot que plus jamais je ne pourrai prononcer sans frissonner. Un mot qui secoue tout.
Puis
un peuple,
plusieurs émissions à celui que je considère comme l'un des plus grands auteurs, compositeurs et interprètes français, Monsieur Léo Ferré.
Je chante pour passer le temps petit qu'il me reste de vivre, comme on dessine sur le givre, comme on se fait le cœur content. À lancer cailloux sur l'étang, je chante pour passer le temps. J'ai vécu le jour des merveilles, vous et moi, souvenez-vous-en. Et j'ai franchi le mur des ans, des miracles plein les oreilles. Notre univers n'est plus pareil, j'ai vécu le jour des merveilles. Allons que ses doigts se dénouent, comme le fronde avec la gloire. Nos yeux furent premiers à voir les nuages plus bas que nous. Et l'alouette à nos genoux, allons que ses doigts se dénouent. Nous avons fait des clairs de lune pour nos palais et nos statues. Qu'importe à présent qu'on nous tue, les nuits tomberont une à une. La Chine s'est mise en commune, nous avons fait des clairs de lune. Et j'en dirai, tant fut cette vie aventure où l'homme a pris grandeur nature, sa voix par-dessus les forêts, les monts, les mers et les secrets. J'en dirai. Pour passer le temps, je chante. Au violon s'use l'archet, la pierre au jeu des ricochets. Et que mon amour est touchante, près de moi dans l'ombre penchante. Oui, pour passer le temps, je chante. Pour passer le temps, oui, pour passer le temps, je chante.
Et c'est sans doute Léo Ferré, qui m'accompagne depuis mon enfance, qui me donna ce goût profond pour la révolte, le questionnement et le non-conformisme. État d'esprit si prégnant que je me suis senti obligé de partager ces réflexions avec les auditeurs. Et si je devais retenir quelques émissions qui, non pas firent polémique, mais suscitèrent quelques commentaires controversés, il y aurait, alors je vais vous les citer doucement, au cas où certains de ces thèmes vous intéressent. Il y eut, je vous les cite quasiment dans l'ordre dans lequel je les ai programmés, l'œuvre et l'artiste. Doit-on séparer la vie de l'artiste de son œuvre? Puis, fausse note. Y a-t-il des femmes compositrices? La musique est-elle un art machiste? Égalité et justice font-elles toujours bon ménage? Encore, révolte ou révolution. La révolution vise à transformer le monde, tandis que la révolte vise à changer la vie. Complotisme, conspirationnisme ou esprit critique? Liberté d'expression et dogmatisme, survolant culte, dogme, rite et emblème entravant cette liberté. Libre pensée ou penser librement, faire mouvement organisé ou position idéologique? La sécurité, l'obsession du siècle, l'hypersécurité, phobie rigide et conservatrice. En rapport avec la liberté, comment l'imprégnation peut altérer le goût de la liberté? Médias. Quel crédit leur accorder? Outils de domination ou outils de libération? Le conformisme. Cette attitude passive entre paresse, soumission et manipulation. Puis le sexe des larmes dans l'histoire. Pourquoi pleurer n'est pas bien vu quand on est un mec? récemment, l'Argentine et les Noirs, l'histoire niée et occultée, la historia negada. Les sciences à l'épreuve du temps, mensonge, erreur ou vérité. La magie, art ou sorcellerie. La devise de ce programme, du moins pour cette quinzaine d'émissions précitées, pourrait être « L'avenir appartient à ceux qui se posent des questions sans forcément pouvoir y répondre ». Sachez là encore que toutes ces émissions sont disponibles à l'écoute sur le site orinoco-podcast. En parallèle de ces questions fondamentales, il y eut aussi mes coups de cœur pour certains personnages. Frida Kahlo, peintre. Barney Willem, saxophoniste français. Joe Turner, pianiste. Charlie Chaplin, compositeur. Louise Michel, communarde et poète. Puis Mélanie Bonis, Julie Debini, Jeanne Barret, dans l'émission « Femmes singulières au destin hors du commun ». Le programme Orinoco sur Frida Kahlo nous emmena dans le deuxième pays d'Amérique latine par l'importance de sa population et le premier pays de l'hémisphère occidental à avoir fait sa révolution. Une heure pour se promener dans le Mexique qui a vu naître, souffrir et mourir l'icône de la peinture mexicaine. Une heure pour découvrir Frida Kahlo, sa vie, son œuvre. C'est vrai qu'on ressent souvent un malaise en regardant ces peintures étranges, souvent naïves et même maladroites, mais c'est alors qu'il faut tenter de la comprendre. Ce programme essaya de montrer le lien étroit entre ses toiles et sa vie, ses amours et ses souffrances, sans réduire pour autant son œuvre à une forme de journal intime naïvement illustré par des peintures. Frida, dont la vie est étroitement liée à celle de Diego Rivera, reste un modèle pour beaucoup de femmes. Certaines la considèrent même comme une sainte et lui vouent un véritable culte. Sur Barney Willem, nous plongea d'une façon romancée dans l'univers de ce grand saxophoniste français de jazz, dont la trajectoire d'étoile filante fut aussi éphémère qu'étincelante. À 20 ans seulement, Miles Davis l'appela pour enregistrer la bande originale du film de Louis Malle, Ascenseur pour l'échafaud. Puis, sa trajectoire le conduira de l'Afrique jusqu'en Amérique en passant par Paris. Des albums complètement inouïs, Moshi en 73, de retour d'un séjour en Afrique, qui lui permet de marier le free jazz et la musique africaine. Plus fou encore en 68, Auto Jazz, ou le destin tragique de Lorenzo Bandini, où Willem incorpore les bruits du Grand Prix automobile de Monaco, au cours duquel le coureur italien perdit la vie. Puis son quotidien se consuma dans la drogue et les amours. Puis en 87, une forme de résurrection, avec la parution d'une bande dessinée, écrite par Paringo et dessinée par Loustal, largement inspirée de sa vie, Barney et la note bleue. Apprenant qu'il est l'inspirateur du personnage principal de cette histoire, Barney Willem décida d'aller à la rencontre de ses deux créateurs. Le contact entre eux trois fut si bon qu'ils décidèrent d'un commun accord de créer une bande-son pour accompagner la sortie de la BD. Or l'idée me parut si géniale et originale et innovante que j'ai décidé d'articuler cette émission autour de cette BD, Barney et la note bleue. Joe Turner, maître du piano stride, un style de piano jazz, apparu à Harlem dans les années 20. On parla dans ce programme bar, piano, cigare et mitraillette, en pleine époque de la prohibition, où le Cotton Club faisait partie des quelques cabarets où l'on pouvait consommer de l'alcool sans risque d'être interpellé. Cabarets où se produisirent successivement Fats Waller, Duke Ellington, Cap Calloway, Ella Fitzgerald et bien d'autres. Une heure de piano bar pour se souvenir et se détendre. Une heure aussi pour éclaircir quelques confusions faites entre Joe Turner et Big Joe Turner, entre le ragtime et le stride. Puis, Orinoco consacra une émission à l'une des facettes d'un homme éminemment connu. Une légende, reconnaissable rien qu'à sa silhouette, ses moustaches, sa carne tournoyante, son chapeau et sa démarche brinque-ballante, Charlie Chaplin. L'homme qui incarna pour toute une génération les premiers balbutiements du cinéma muet dès 1914. L'homme qui sut mêler, comme personne, le comique et le tragique. Celui qui sut nous émouvoir aux larmes et nous faire rire aux éclats. L'homme marqué par son personnage de fiction, ce vagabond au grand cœur, au point de nous faire oublier sa véritable identité, Sir Charles Spencer Chaplin. Rien qu'à l'évocation de son nom, Charlot, on pense immédiatement à l'acteur, au réalisateur, au scénariste ou au producteur. La facette la moins connue de ce génie est sans doute celle du compositeur. Et c'est sur cet aspect que ce programme attirera notre attention. En juin dernier, le programme Orinoco nous conduisit à la découverte de Louise Michel, née en 1830 en Haute-Marne et décédée en 1905 à Marseille. Institutrice, écrivaine, militante anarchiste, franc-maçonne française, aux idées féministes, figure majeure de la Commune de Paris, n'est connue sous le nom de la Vierge Rouge. Louise Michel fut une icône de la Commune de Paris. Incarcérée puis déportée au bagne de Cayenne, elle consacra sa vie à instruire et déclara « La tâche des instituteurs est de donner au peuple les moyens intellectuels de se révolter. » Tout le monde connaît, ou croit connaître, l'ex-déporté de 1871, l'ex-pensionnaire de la maison centrale de Clermont, la prisonnière devant laquelle vinrent s'ouvrir les portes de Saint-Lazare. Pour la grande majorité du public, et surtout en province, Louise Michel est une sorte d'épouvantail, une impitoyable virago, une ogresse, un monstre, à figure humaine, disposée à semer partout le fer, le feu, le pétrole et la dynamite. Combien différente est la réalité. Ceux qui l'approchent pour la première fois sont tous stupéfaits de se trouver en face d'une femme à l'abord sympathique, à la voix douce, aux yeux pétillants d'intelligence et respirant la bonté. Dès qu'on a causé un quart d'heure avec elle, toutes les préventions s'effacent, tous les partis pris disparaissent. On se trouve subjugué, charmé, fasciné, conquis. Or on peut repousser ses idées, blâmer ses actes. On ne saurait s'empêcher de l'aimer et de respecter, même dans leurs écarts, les convictions ardentes et sincères qui l'animent. Pour les plus fidèles à ce programme, vous n'êtes sûrement pas sans remarquer, et peut-être surpris d'ailleurs, par la part plus importante que d'habitude que je laisse aujourd'hui aux intermèdes musicaux dans ce programme anniversaire. Occasion de vous signaler d'ailleurs que tous les podcasts sont accompagnés d'un article où vous pouvez retrouver tous les titres et albums dont sont issues les programmations musicales qui illustrent chaque émission. Et puisque on fait une parenthèse musique, je me souviens d'une émission de 2017 consacrée aux plus belles voix de soprano, dont celle de Sofia Cecilia Kalos, alias Maria Callas et surnommée La Callas, cantatrice grecque, née le 2 décembre 1923 à New York et morte le 16 septembre 1977 à Paris. Alors je me tais quelques instants. Dire sans se tromper qu'elle a bouleversé l'art lyrique du XXe siècle en valorisant l'approche du jeu d'acteur, jusqu'alors relégué au second plan. La Callas demeure encore au XXIe siècle l'une des cantatrices les plus célèbres, à la fois par le timbre très particulier de sa voix, son registre étendu près de 3 octaves, sa grande virtuosité, un phrasé unique, et enfin son talent de tragédienne, lui permettant d'incarner des personnages avec une grande intensité dramatique, comme vous allez pouvoir vous en rendre compte dans cet opéra Norma de Vincenzo Bellini. Le rôle-titre de Norma est considéré comme l'un des plus difficiles du répertoire des sopranos, un rôle qui requiert à la fois une grande technique lyrique et des qualités de tragédienne exceptionnelles. Je me tais à nouveau. Voilà les 3 grands axes qui structurèrent ce programme qui, je vous le rappelle, fête ses 20 ans ce mois-ci. Le Venezuela et sa richesse musicale, richesse et diversité. Les grandes questions existentialistes ainsi que les sujets de révolte permanents. Et les personnages plus ou moins connus qui marquèrent leur époque. Mais une 4e rubrique pourrait venir compléter ce tableau, entre histoire et anecdotes. Le tout sur fond de poésie. Une visite au cœur de la ruche, dans le monde fascinant des abeilles. Une balade nocturne dans les halles de Paris, le ventre de Paris, hein, comme l'appelait Zola. Une heure sur les traces de la bête du Gévaudan. Une boîte à boutons, révélant ses secrets. Sans oublier une part importante laissée aux fables, légendes et poésies. Puis, d'une façon assez récurrente, l'accent fut mis sur les intelligences multiples, sans oublier l'importance de l'oralité. L'oralité. Et comme je l'indique dans le générique de chaque programme Orinoco, billets d'humeur ou chronique, anecdotes ou histoires, culturelles et musicales, en terminant par inclassable. Et ce n'est pas par prétention, mais uniquement par le constat assez réaliste des contenus de ces programmes qui sont, mois après mois, le fruit d'une indignation, d'un émerveillement, d'une découverte ou d'une réflexion. Comme vous pouvez ou pourrez le constater en allant sur le site orinoco-podcast, ce mensuel est difficilement étiquetable, tant les sujets proposés sont traversés par mes passions et mes vérités.
C'était une émission préparée, présentée et réalisée par Gilles Beng.
Voilà comment j'avais envie de faire une brève rétrospective sur les 20 ans de ce programme qui vit le jour en janvier 2005. Une des constances de ce programme fut aussi, et est aussi, de partager, ce qui me permet de grandir dans un esprit suffisamment rebelle et curieux pour m'ouvrir sur le monde et susciter la curiosité. Si au cours de cette émission, de ce numéro spécial d'Orinoco fêtant ses 20 ans, un ou plusieurs sujets ou thèmes vous ont intéressé, sachez que vous pouvez retrouver, réécouter ou découvrir l'intégralité de ces programmes sur le site orinoco-podcast. Chaque épisode de ce mensuel étant accompagné d'un article très souvent illustré. Je tiens aussi, avant de vous quitter, à remercier toutes les radios qui retransmirent, et pour certaines, retransmettent toujours ce programme. Le 97.7 FM de la Cultural de Caracas, la radio Guachirongo Andial, émettant sur le 98.5 de la bande FM de Barquisimeto dans l'état de Lara, puis les radios communautaires du Canada. En France, à Montpellier, la radio Divergence, sur le 93.9 de la bande FM, 48 FM et fréquence Mistral, la dernière en date, à avoir intégré ce mensuel dans sa grille de programmes. Puis bien évidemment, l'ensemble des auditrices et auditeurs, de plus en plus nombreux à écouter en podcast, quand bon leur semble, les épisodes de ce long fleuve tranquille, pas si tranquille que ça d'ailleurs, qui sont archivés et toujours disponibles sur le site dont je vous parlais, orinoco-podcast.com. Alors en attendant de vous retrouver le mois prochain, je peux vous assurer que ce fut avec un réel plaisir que je me suis replongé dans ces 20 années d'archives sonores pour vous présenter ce numéro. Je vous souhaite, comme d'habitude, le meilleur à l'écoute de vos radios préférées et vous donne rendez-vous le mois prochain. Ciao.